Bonjour à toutes et à tous, Christophe Julien pour vous accueillir sur La Route Inconnue, votre magazine dédié à la poésie vivante, celle qui s'écrit, se publie, se lit aujourd'hui. La Route Inconnue bénéficie grandement du partenariat que nous avons noué avec la revue de poésie trimestrielle Des Charges, portée à bout de bras par son fondateur Jacques Morin, secondé par son fidèle complice Claude Verset. Claude que vous retrouverez d'ailleurs en seconde partie d'émission avec un coup de cœur dans sa musette. Il sera suivi de Cécile Guivarch et de Patrick Jockel qui eux aussi nous apporteront une moisson de lecture pour ce début d'année 2019 que je vous souhaite heureuse. Mon invité du jour s'appelle Maud Leroy. Les fidèles auditeurs de La Route Inconnue se souviendront sans doute qu'elle préside aux destinées d'une jeune maison d'édition, les éditions des Lisières, dont nous avons parlé d'ailleurs il y a 15 jours avec Bertrand Agostini qui vient d'y faire paraître son Jack Kerouac et le haïku. Aujourd'hui, Maud, vous allez nous présenter un autre livre qui vient de sortir de presse, Le Chant de l'Étoile du Nord de Hiboshi Okuto. C'est un nom japonais. Mais Hiboshi Okuto est un poète Ainu. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Maud, qui sont les Ainu?
Oui, bonjour Christophe. Alors, les Ainu sont un peuple autochtone qui vit sur l'île d'Hokkaido au Japon. Cette île, en fait, a été rattachée au Japon en 1869. Elle a été annexée au Japon. Et donc, les Ainu, qui sont d'origine pas tout à fait précises, qui viennent pour la plupart de Sibérie et des pays du nord du Japon. Donc, étaient les autochtones qui vivaient sur l'île d'Hokkaido, appelée anciennement Ezo. Et Yezo, pardon, puisque Ezo, c'était le nom des Ainu, plutôt. Ouais. Étaient les autochtones de cette île, donc annexée au Japon en 1869, et qui ont été colonisés par les Japonais, donc dès que l'île a été rattachée au Japon, ouais. Dès que l'archipel a été rattaché au Japon. Donc c'est un peuple qui a une culture très forte, une culture traditionnelle. Alors, je peux vous lire un passage du coup du petit texte de Patrick Blanche, oui, qui expliquait un peu la conception de l'univers des Ainu.
Voilà, Patrick Blanche qui est le co-traducteur, hein, je crois, du livre.
Hein. Voilà, qui est le co-traducteur du livre et qui a aussi co-traduit le livre de Seigetsu et beaucoup d'autres haïkus japonais, notamment avec Makoto Kemoku qui est maintenant décédé. Oui. Donc, je lis une partie de son texte qui était un peu pour éclairer la conception de l'univers des Ainu. Donc, 6 est leur chiffre sacré. Le monde des hommes est pris en sandwich entre 6 couches de pays célestes et 6 de pays souterrains. Tout ce qui appartient à la nature terrestre ou aérienne a une âme. Les innombrables âmes ou dieux de la nature vivent à peu près comme les hommes, ont le même genre d'aventure. Il y a donc une multitude de dieux ou kamui. Évoquons brièvement l'ours, dieu de la montagne. L'ours fait don de lui-même aux humains qui le capturent, le tuent et le mangent avec gratitude. Puis il remonte au pays des dieux où il ne manquera pas de faire l'éloge de ses hôtes d'en bas s'il a été bien traité. Il y a une foule d'autres dieux, de la chouette au saumon et de nombreux rites pour s'accorder leur faveur, dont l'usage de la fameuse baguette à libation très présente lors des cérémonies. Voilà, quelques éléments qui éclairent...
Voilà, c'est une culture vraiment tout à fait traditionnelle qui, évidemment, a eu beaucoup à souffrir, hein, comme toutes les cultures autochtones, parce que à partir, je crois, de 1871, le gouvernement avait pratiqué l'assimilation. On sait ce que c'est, ça veut dire tout simplement interdire au peuple Ainu de pratiquer ses rituels, ses traditions, et puis la tentative d'en faire finalement des Japonais comme des autres, hein, c'est ça.
Oui, c'est ça, il y avait une japonisation des Ainu, avec l'obligation du coup d'abandonner leur langue et de parler le japonais. C'est pourquoi Hiboshi réintroduit quelques termes Ainu dans ses tankas. Une façon de résister pour lui, même s'il y a peu de réintroduction. Mais bon, à cette époque, déjà, la japonisation était déjà bien avancée. Ouais. Donc, les modes de vie et les croyances avaient déjà bien du mal. Voilà. Hiboshi, en fait, a réagi parce qu'il a été très... il était très marqué par la déchéance de son peuple, par la façon dont il se laissait dominer par les Japonais.
Oui. Donc cette œuvre, elle regroupe quelques haïkus. On pourra en lire quelques-uns dans Chant de l'étoile du Nord que vous venez de publier, mais la plupart, surtout des tankas. Alors, si le public occidental a eu l'occasion de se familiariser avec le haïku ces dernières années, par contre, il ignore à peu près tout du tanka, qui est une autre forme poétique assez courte, elle aussi, hein, pratiquée au Japon depuis des siècles. À quoi ressemble un tanka ? C'est un rythme un peu particulier. Hein.
Oui, ben, le tanka, ça veut dire chant court. Et c'est un poème de 5 vers où alternent les déca et heptasyllabes. Et donc le haïku, ce sont les 3 premiers vers d'un tanka, en fait. Ouais. C'est la forme courte du tanka.
Ouais. Et vous me disiez que dans la langue japonaise, l'œuvre de Hiboshi au couteau est très, très finalement, très rude, un peu délicate, quoi. Hein.
Oui, oui, il y a quelque chose d'assez brut, ouais. De peu raffiné, en fait, dans ses tankas.
Alors, donc, parlons
après,
de...
Voilà, c'est ce que je vous disais, donc, comme on en parlait avec Patrick Blanche, il y a quand même un choix de cette forme-là, parce qu'il aurait pu, il aurait pu évoquer cette révolte en forme de prose, et sous forme de prose, et il l'a quand même évoqué sous forme de tanka, donc, ouais. Il y a quand même un parti pris... Et il suit le rythme traditionnel
du tanka, oui.
Du oui. Tanka, il y a peut-être deux tankas où il se défait de ce rythme.
Oui. Alors, Hiboshi Okuto, lui, est né en 1901. Il est mort très jeune, 28 ans plus tard, en 1929, après une vie vraiment... une vie de crève-la-faim, ou presque. Hein. C'est ce qui était le cas, d'ailleurs, de bien des Ainu à cette époque-là, semble-t-il. Hein.
Oui, oui, ça, il y a toujours, oui, il y a eu des discriminations, donc ils avaient des vies assez précaires. Lui, il vient quand même d'une famille, peut-être un peu moins précaire que la plupart. Et effectivement, par contre, il a fait des choix aussi dans sa vie qui l'ont amené à avoir une vie assez difficile. Notamment lorsqu'il est parti à Tokyo pour militer pour la cause de son peuple. Et donc il a dû assurer plein de petits boulots, notamment celui de vendeur de crème pour hémorroïdes, et ce qui, on le voit, n'est pas très simple.
Il en parle d'ailleurs il y a quelques poèmes consacrés,
oui,
à son travail.
Hein, il y a quand même une dizaine de tankas sur le sujet, mais finalement qui se rapproche de... Oui, bah toute la culture un peu scatologique
qu'on trouve beaucoup au Japon.
Traditionnelle au Japon, quoi.
Ah oui, tout à fait. Oui, il y a rien n'est trivial finalement. Tout est susceptible d'entrer dans le cadre de la poésie, et c'est ce qui fait le charme d'ailleurs effectivement de la poésie japonaise. Alors, je trouve, moi, en lisant, hein, j'ai lu attentivement ces poèmes, et je me dis que finalement, lire Hiboshi au couteau, c'est évidemment comprendre son drame personnel, parce qu'il raconte ce qui lui arrive, mais c'est un drame qui se confond en l'occurrence avec celui du peuple Ainu. Finalement, c'est peut-être là le grand intérêt du livre, non ?
Ah oui, tout à fait. Bah oui, en fait, c'est la première voix d'un poète Ainu qui est traduite en français, à part du coup les chants Ainu qui avaient été... publié chez Gallimard dans la collection L'Aube des Peuples, mais c'est un peuple qui reste quand même assez méconnu du public français, et d'ailleurs même au Japon, Hiboshi Okuto n'est pas très connu. Hein.
Ouais.
Il y a une marginalisation encore des Ainu. Hein.
Ouais. Alors je lis dans l'introduction que en 2008, l'État japonais a reconnu le statut d'autochtonie à ce peuple. Il a essayé de réhabiliter la culture, mais évidemment, ça vient un peu tard, quoi. Hein.
Oui, ça fait seulement 10 ans, donc j'ai trouvé ça hallucinant que ce peuple a été reconnu autochtone. Alors, est-ce que c'est tard, mieux vaut tard que jamais, comme on dit, mais... Mais je crois que oui, ils sont encore, apparemment, il y a une résurgence identitaire, entre guillemets, une résurgence, du coup, dans l'esprit d'Hiboshi pour revendiquer la dignité de ce peuple et sa culture.
Ouais.
Actuellement, je crois qu'il y a un mouvement aussi, comme toutes les cultures autochtones dans
oui.
le monde. Quoi.
Ah oui, les peuples premiers, comme on les appelle, ont retrouvé un regain... de popularité auprès des grandes puissances, mais ça vient un peu tard, évidemment. Alors, ce qui est très beau dans les textes de d'Iboshi, c'est qu'évidemment, tout son caractère y apparaît. C'est un mélange de détresse, de colère. Il voudrait les relever, ses amis Ainu, et puis, il n'y arrive pas. Et puis, il meurt d'épuisement, finalement, hein, je crois, à l'âge de 28 ans, ou presque.
Oui, d'une hémorragie pulmonaire suite à la vie qu'il mène. Mais oui, vous avez raison, c'est quelqu'un où on voit différentes facettes de sa personnalité et qui est quelqu'un d'entier, quoi.
Ouais.
On voit à la fois sa colère et à la fois, je pense à un temps de cas où il parle de sa nature nonchalante qui prend ses aises en cette vie. Voilà, il y a un côté aussi assez détaché. Il y a plein d'aspects de sa personnalité.
Qui fait qu'on l'a beaucoup, on le rapproche beaucoup d'un autre poète triste, si j'ose dire, et qui lui aussi est mort jeune. C'est Takuboku, qui est vraiment un poète d'une immense popularité au Japon, qui écrivait aussi des tanka d'ailleurs. Il y a cette même tristesse, cette même peut-être détresse vis-à-vis du monde moderne en fait aussi, hein, peut-être.
Oui, moi j'aime aussi beaucoup Ishikawa Takuboku. Et on l'appelle, on parle d'Iboshi Okuto comme du Takuboku du peuple Ainu.
Ouais. Alors comment avez-vous fait la connaissance? Qu'est-ce qui vous a décidé à publier Iboshi Okuto? C'est Patrick Blanche qui vous a dit « Ah, il faut faire ça ou... »
Non, alors c'est un ami, Kosuke Kawasaki, avec qui on avait retravaillé donc les haïkus de Seigetsu. On a dit il y a un poète qui serait intéressant à traduire, c'est Iboshi Okuto, c'est un poète Ainu. Et donc Patrick Blanche s'intéresse beaucoup à la culture des Ainu depuis de longues années, et moi ça m'intéresse aussi, donc j'ai dit bien sûr. Et puis voilà, on a commencé à faire le travail avec Kosuke, et puis après, suite à certains désaccords, on a arrêté ce travail-là, enfin qui avait été bien entamé. Et donc j'ai recherché un autre traducteur pour travailler sur ce projet. Et en fait, lors d'un salon au festival Voix Vive à 7, il y a quelqu'un qui vient sur mon stand et qui me dit « Ah, on m'a offert ce livre », donc en parlant du livre de Seigetsu. Et donc je lui dis « Ah, j'ai un autre projet japonais et je cherche un traducteur ». Donc il me dit « Ah, j'ai travaillé 3 ans au Japon, donc j'ai peut-être un collègue qui pourrait vous aider ». Et il nous a mis en lien donc avec Fumi Tsukahara, qui est un universitaire qui est le traducteur officiel au Japon de l'œuvre de Jean Baudrillard, qui a beaucoup travaillé sur les Tristan Tzara et les dadaïstes. Et donc lui m'a dit « Ah, bien sûr ça m'intéresse, je me fais un devoir de traduire ce poète ». On est rentré en contact, donc Fumi Tsukahara a fait les premières traductions qui ont été ensuite retravaillées par Patrick Blanche pour l'adaptation en français.
Maud, je vous remercie. Je rappelle le titre du livre « Chant de l'étoile du Nord, carnet de Iboshi Okuto, poète Ainu, né en 1901 et mort en 1902 ». Le livre est très joli.
Non,
comme...
1902.
En 1929, pardon. Il s'agit d'une édition bilingue et un très bel objet comme toujours. Et puis je rappelle aussi qu'il y a ce livre de Bertrand Agostini sur Jack Kerouac et le haïku qu'on peut également se procurer. Quelles sont les prochaines aventures éditoriales aux éditions des Lisières?
Alors pour le mois d'avril, il y aura un roman de Foi de la Bise avec qui on a déjà travaillé.
Oui.
Pour les brouillons amoureux. Donc là, c'était des poèmes, là, ce sera un roman. Et il y aura un autre poète irakien, Fadil Al-Azawi, qui est un très grand poète arabe, et qui sera traduit aussi pour la première fois en français.
Ouais. Vous faites un travail de défricheur, finalement, aux éditions des Lisières. en proposant des premières traductions, et voilà, c'est très bien.
Voilà, c'est le hasard des rencontres. Ouais. Tant qu'à faire, autant que faire découvrir des voix de lisière.
Ouais. Merci beaucoup. Maud, comment fait-on en fait pour se procurer les livres? On peut peut-être donner une adresse, un site internet?
Alors, soit par le site, soit en librairie. C'est bien de travailler aussi avec les libraires. Je fais des tournées de diffusion. J'ai pas encore fait votre région, mais ça ne saurait tarder. Les livres sont commandables dans toutes les librairies indépendantes.
Oui. Alors, je précise
ne
que...
Ne pas commander sur Amazon parce que les livres n'arriveront jamais. Et sinon, sur le site internet.
Je précise à nos auditeurs chartrains que le livre de Bertrand Agostini, Jacques Kerouac et le haïku, est à la librairie L'Esperluette à Chartres. Je l'y ai vu.
Super. Il y a des libraires qui commandent sans que je les ai vus. Donc
ouais.
Merci libraire.
Merci beaucoup, Maud Leroy. On écoute un peu de musique et on se retrouve pour une lecture à voix haute de quelques poèmes d'Iboshi au couteau, extraits du Chant de l'Étoile du Nord.
Merci Christophe et merci l'équipe de Radio Grand Ciel.
Merci à vous.
Veni, oh, veni, oh, veni, oh, veni, oh, veni, oh.
Ce que vous venez d'entendre n'était pas un chant natif Aïnou, mais un chant natif amérindien, interprété par la chanteuse amérindienne et militante des droits civiques Pourafé. J'en reviens au sujet qui nous intéresse, Iboshi Okuto, poète Aïnou né en 1901 et mort en 1929, avec ce Chant de l'Étoile du Nord publié aux éditions des Lisières dans une édition bilingue. La traduction est assurée par Tsuku Hara et Patrick Blanche. Voici quelques extraits. Vous allez pouvoir constater vous-même que ces poèmes sont extrêmement simples, comme une plainte en quelque sorte, qui serait celle de l'auteur, mais aussi celle du peuple Aïnou dont il est issu. Certes, je ne suis qu'un bien modeste Aïnou, pourtant satisfait d'avoir eu la chance de naître où le soleil se lève. Frère Aïnou, pour le peuple qui s'éteint, je me suis levé. Comme luisent les prunelles de Okuto Iboshi. Être un Aïnou, c'est ma seule conviction. Dès lors, avancer en suivant la juste voie et toujours demeurer droit. Ouvrant les journaux, lorsque je lis un article sur les Aïnous, surgissent à chaque fois des pensées qui me tourmentent. Il n'existe plus de pureté Aïnou à l'heure d'aujourd'hui. Je regretterai toujours les villages d'autrefois. Reprenez courage, ô mes frères Aïnou. Il faut souhaiter de grandir et prospérer sur la terre comme au ciel. Voilà que la nuit déjà s'est bien avancée. Soudain, malgré moi, songeant à mes compagnons, je me mets à sangloter. La petite voix de cet insecte qui crie, ne serait-ce pas ma propre voix qui s'élève,
lorsque je songe à mon peuple. Au prochain voyage, j'irai jusqu'à Sakhalin, du moins je l'espère. Mes yeux se tournant au large, se promènent sur la mer. Traversant ce col pris par les chutes de neige, la faim me tenaille. Cet iboshi au couteau, tout à coup, me fait pitié. Et notre couteau, où peut-il bien se trouver à l'heure actuelle? Il y a peut-être encore des gens qui parlent de moi. Combien je déteste ce métier de colporteur quand vient le matin. Mais hélas, je sais bien que je n'ai plus un sou en poche. Quand j'étais plus jeune, j'avais blâmé mes aïeux pour leur ignorance, mais aujourd'hui je ne puis que leur demander pardon. Ils étaient enclins à se résigner sans la moindre résistance. Ah, ces pauvres Aïnous, leur grand cœur les a perdus. Ceux-là qui sont forts, ainsi s'appelaient les hommes du peuple Aïnou. N'avez-vous pas un peu honte? Réveillez-vous, compagnons. Prompts à la pitié, tout en plaçant la vaillance au-dessus de tout. Où pourrait-on en trouver des Aïnous d'autrefois? Sortant au matin, le repas de boules de riz tout contre la hanche, j'entends le cri des milans dans le ciel de mon village. Rive remblayée, un pont neuf traverse l'eau. Mais quelle pitié de contempler ces masures délabrées dans le village. Quand je vois l'un des Aïnous de ma nation gisant ivre mort, ce n'est plus de la colère, la haine gagne mon cœur. La première fois où j'essayais le costume à l'occidental, je me sentis étouffé par ce col serrant mon cou. Cravate nouée autour du col, qui est ce monsieur dans la glace? Et le reflet de répondre, ce n'est rien qu'un Aïnou. Palpant mon visage, d'un attardé des montagnes il a vraiment l'air. Je retourne le miroir avec un sourire amer. Farouche et sauvage pourrait sembler ce visage qui cache, à vrai dire, le cœur du peuple Aïnou, si faible et si solitaire. J'ai bien du plaisir à poursuivre mes visites d'un village à l'autre. Des dessins, des poésies, des légendes se succèdent. Jadis, l'arrivée des harengs annonçait le printemps au village. Nostalgie des temps où l'on vivait sans calendrier. Calme de la pluie, du fond d'un ravin s'élève une fumée blanche montant de cet ancien four chauffé au charbon de bois. Une natte en paille faisant office de porte, et le vent s'engouffre avec les feuilles d'érable, cabane emplie de fumée. Un vallon perdu, le vent se lève en hurlant, me jette au visage les feuilles d'or d'un érable. J'avance sur de la mousse. L'automne glacial s'est encore appesanti. Une feuille lentement se détache et tombe. Crépuscule sur le village. Les branches sans feuilles d'un grand katsura nippon transpercent le ciel. Sur les monts de Hidaka, l'hiver s'approche à grands pas. Je croyais vraiment que nul ne me comprenait. Pourtant, quel bonheur d'avoir trouvé un ami sachant me réconforter. Longtemps séparés, lors des retrouvailles, on passe la nuit à parler. Les idées de mon ami ont beaucoup évolué. Deux gars solitaires qui se consolent l'un l'autre dans les bains publics. Le visage de l'ami est tout rouge sous l'eau chaude. Tout en discutant du Kamtchatka, nous coupâmes une pomme en deux et chacun eut sa moitié, symbole de l'amitié. Repris le travail il n'y a pas bien longtemps. Un rude boulot. J'ai les paumes des mains pleines d'ampoules qui me font mal. Un rude travail, mais après, comme il est bon de s'emplir le ventre d'une délicieuse soupe de saumon et de légumes. Je suis devenu ce gaillard qui engloutit son riz, bol sur bol. De la pêcherie, j'écris une lettre à un ami. Jouant sur ma flûte la chanson d'Oiwake, je suis arrivé à l'extrémité du pont, si long, de Biratori. Et pour terminer, c'est quelques haïkus de Hiboshi au couteau. Le printemps approche, les gens semblent si contents. Hameau de montagne. Début du printemps, plus de 5 pieds de neige à la baie des Harans. Précoce printemps, on détache les cordages des bateaux de pêche. Chantent les crapauds, la nuit gagne le hameau, la pluie n'a de cesse. Des oies atterrissent dans la clairière du bois et le jour décline. Des oies atterrissent dans la clairière du bois et le jour décline. Voilà, c'était donc quelques extraits du Chant de l'Étoile du Nord, carnet de Hiboshi Okuto, poète Ainu, né en 1901, mort en 1929. Les poèmes sont donc des tanka, des poèmes traditionnels courts, japonais, puis quelques haïkus, un genre auquel Hiboshi Okuto s'était essayé. Voilà, c'est donc aux éditions des Lisières. N'hésitez surtout pas à taper édition des Lisières sur votre moteur de recherche pour avoir les coordonnées de cette excellente maison d'édition. On écoute un peu de musique, après quoi eh bien, nous aurons rendez-vous avec Claude Verset pour sa chronique mensuelle. Thank you. C'était du tout bon Joe Turner avec Lisa, un morceau qui ne nous rajeunit pas. Je ne vous donnerai pas l'année d'enregistrement de ce morceau parce que je ne le connais pas tout simplement. Écoutons Claude Verset pour sa chronique mensuelle. Claude Verset, poète, chroniqueur dans la revue Décharge, et même un peu plus que chroniqueur, c'est l'un des piliers de cette revue fondée et dirigée par Jacques Morin, aux côtés également, je vais les citer, de Louis Dubos ou d'Alain Kéouès, ou de Mathias Lair également. Il faut être nombreux et il faut beaucoup de talents conjugués pour faire une revue comme Décharge. On écoute Claude Verset.
Bonjour à tous. Bonjour Christophe. Aujourd'hui, une voix qu'on peut qualifier de nouvelle, mais sur laquelle il y a peu de risques, à mes yeux, à parier sur son importance à l'avenir. Celle de Gabriel Zimmermann, dont on vient d'inscrire sous une préface de Jacques Darras le livre « Atlas de l'invisible » dans la collection Polder, que coédite, je le rappelle, la revue Décharge et les éditions Gros Texte. Dans le même temps, les éditions Tarabuste accueillent, du même Gabriel Zimmermann, Depuis la cendre. C'est de ce livre que je vous parlerai. Trois vers suffisent à en donner la tonalité. Ce matin, sur la plage, j'ai dispersé ces cendres. On ne peut évoquer avec plus de simplicité l'ami mort d'un cancer à 19 ans. Gabriel Zimmermann ne se paie pas de mots. Et c'est cette sobriété, et cette précision dans les termes, et dans quelle autre poésie parle-t-on de métastase ? Sobriété et précision qui donnent en premier lieu son prix à cette écriture, ici attachée à une méditation autour de la perte de l'absence. Je cite. Est-ce impudeur de le chercher dans son silence, de remuer la nuit qui a pris ses yeux, d'écouter plus loin que sa cendre? Sur le site de la revue Décharge, je notais que les livres de deuil me semblaient actuellement plus nombreux que les poèmes d'amour. On objectera à juste raison que Depuis la cendre est aussi un poème d'amour. La singularité de celui-ci, le point par lequel il me touche particulièrement, et dans les questions qu'il lève autour des pratiques de la crémation et de la dispersion des cendres. Comment dès lors peupler l'absence de l'ami sans stèle ? Vous, les morts en mer, un petit bateau en bois vous garde auprès de nous, est-il rappelé. Et aussi, et ce sera le principal poème que je lirai aujourd'hui, en Égypte, ils sculptaient pour leurs morts des statuettes qu'ils peignaient en noir et blanc. Était-ce une étrenne pour les dieux, ces ouchéptis où jouaient pour un au-delà moins âpre, des femmes, le plus souvent, au visage doux, nattées, gainées, qu'ils déposaient dans la tombe avant le séjour où lune et soleil ne se succèdent plus. Mais lui, dans son sommeil, aucun objet ne l'accompagne. On l'a laissé nu pour partir, pas même une fleur sur sa poitrine. Néanmoins, à la question posée, Gabriel Zimmermann répond « C'est le livre qui construit le tombeau absent, en ces quelques pages qui le racontent comme un cairn sur le chemin désert. » Dès lors, l'auteur va pouvoir s'engager sur le chemin de la résilience. Et c'est ici que la mort finit, affirme le dernier vers du livre, dont je rappelle le titre, Depuis la cendre. Et le nom de l'auteur, Gabriel, au masculin, on l'aura compris, Gabriel Zimmermann, et ce sont les éditions Tarabuste, rue du Fort, 36 170 Saint-Benoît-du-Sault, qui l'ont publié. Il vaut 14 euros. Et je vous donne rendez-vous à dans un mois sur cette route inconnue.
Merci Claude, encore un livre à découvrir, à acheter, à lire, acheter des livres de poésie, c'est absolument capital évidemment pour les maisons d'édition et pour les poètes eux-mêmes. Petit coup de projecteur sur le dernier numéro de la revue des charges, numéro 180, dont je vous avais extrait quelques poèmes il y a 15 jours, je crois que c'était ceux de François de Cornière et un inédit de Michel Merlan. Aujourd'hui, nous allons découvrir Eric Van Neff, poète américain, poète Docker, qui depuis 10 ans adresse des inédits à la revue des charges via les traductions de son ami Jean Hautepierre. Eric Van Neff est très énigmatique. On s'est même demandé s'il existait vraiment. On s'est demandé si ce n'était pas un canular littéraire. Mais non, pas du tout. Il semblerait bien qu'il existe, ce poète Docker. J'ai choisi de vous faire découvrir 3 textes. Que vous retrouverez, donc je le précise, dans la revue des charges. Le premier s'intitule « Accepter ». Le Maersk Bank était enfin prêt à appareiller. Et alors que nous marchions vers la camionnette qui allait nous emmener au portail, Tim a dit « Ça fait du bien de travailler avec toi, mon frère noir ». J'étais stupéfait. « Frère noir ?» Est-ce que j'avais bien entendu ? Ouais, t'es l'un d'entre nous. Merci. Une chaude lueur m'enveloppa. Mes frères, les dockers noirs, qui m'acceptaient pour l'un d'entre eux. Et pourquoi ? C'est difficile à dire. Merci, mes frères. Qui suis-je maintenant ? Nous étions une équipe synchronisée qui travaillaient en harmonie, les couleurs se mêlaient, les couleurs marchaient ensemble. Merci, mes frères. Deuxième poème intitulé Maison. C'était un caddie rouillé, avec à l'intérieur une vieille couverture militaire dont une partie retombait sur le côté, et aussi des vêtements dont aucun n'était plié, et une chaussure apparente, même s'il y en avait probablement une autre glissée quelque part. Sur le côté du caddie, quelqu'un avait écrit, avec ce qui semblait être un crayon de bois, « Maison ». J'ai regardé tout autour, j'ai vu une femme avec une poussette, un homme qui marchait d'un bon pas, une serviette à la main, mais personne à proximité. « Maison ». Est-ce que le propriétaire se trouvait dans les toilettes de la bibliothèque principale, ou peut-être à Saint-Anthony, ou en déplacement quelque part ? Maison. Le caddie rouillé, la couverture en loques et les vêtements, le panneau en carton. Maison. Elle attend. L'homme qui a faim, qui est fatigué, qui sourira quand il verra le panneau en carton. Maison. Le sol n'est pas en bois, le gazon n'est pas tondu, il n'y a pas d'interrupteur. Troisième et dernier poème, le journal. C'était au bout de Maiden Lane et Kearny Street. Il était assis là avec une tasse d'étain à côté de lui et un journal sur le visage. Je ne le voyais pas, il ne me voyait pas, il ne lisait certainement pas le journal, car il le tenait sur son visage. Si quelqu'un lui donnait de l'argent, il ne le voyait pas, et on ne le voyait pas non plus. Les gens passaient devant lui, certains lui donnaient, il ne les voyait pas, il ne le voyait pas. Les poèmes d'Eric Van Neff, ainsi que tant d'autres, sont à retrouver dans le dernier numéro de la revue des charges, le numéro 180. Je vous signale à toutes fins utiles que vous pouvez d'ores et déjà vous abonner pour l'année 2019 à la revue des charges. C'est 28 € par an et 45 € si vous choisissez la formule revue plus 4 livres dans la collection Polder. Et ça, je vous les conseille vraiment. Votre chèque est à rédiger à l'ordre des palefreniers du rêve et l'adresse de la revue des charges est celle de Jacques Morin, son directeur, 4 rue de la Boucherie, 89 240 Eglony, E-G-L-E-N-Y. Sur ce, reprenons le cours de notre émission. Nous avons rendez-vous avec Cécile Guivarche, poète, animatrice du site Terrassiel. Nous allons voir ce qu'elle a ce mois-ci dans sa musette.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. La dernière fois, je vous ai parlé du sonnet avec Laurent Fourcault. Son livre « Joyeuse Pâques » était paru aux éditions Tarabuste. Et je vais poursuivre avec le livre de Pierre Vinclair qui s'appelle « Sans adresse » et qui vient de paraître aux éditions L'Hurlure. Et alors, Pierre Vinclair aussi fait dans le sonnet. Dans « Sans adresse », il y a 77 sonnets qu'il a écrits à Shanghai, parce qu'en fait, cet auteur en fait travaille à l'étranger. Et il a écrit ce sonnet loin de ses amis, de sa famille. Et ce sont, avant d'être même des sonnets, ce sont des lettres qu'il a adressées à toutes les personnes qui sont loin de lui. Donc c'est un peu d'ailleurs à la manière de Dubélé, qui avait écrit aussi 191 regrets à ses amis. Ça m'a paru vraiment très intéressant de la démarche, surtout que dans ses correspondances se déroule le quotidien de l'auteur, donc à Shanghai, une ville qu'il décrit comme polluée et bruyante, mais où il a aussi pourtant l'impression de prendre racine au fil du temps qui passe. Il écrit également ses pensées, ses lectures, son activité de traducteur, sa posture de poète, et surtout il y a une idée de transmission. Il écrit aussi pour transmettre à ses filles tout ce qui, grâce à ses sonnets, qu'elles pourront relire un peu plus tard. Il y a l'idée de transmission via la poésie. Il n'oublie pas non plus de parler dans ses sonnets du monde actuel, hein, de la politique, de l'économie, et même alors qu'il est à Shanghai, il parle de la France. Il écrit ainsi « Quelque chose étourdit la France, endolorie, qui s'en va, roulant sur elle-même, à l'abîme. » Voilà, on a sa vision de l'autre côté du monde, de la France. Le ton, en fait, de ces sonnets est aussi très différent de l'ironie que j'avais trouvée dans ceux de Laurent Fourcault. Ici, Pierre Vinclair, il n'est pas du tout dans l'ironie, hein, il est plutôt vraiment dans une poésie du quotidien, de la pensée et du partage. Mais surtout, il est dans une réflexion autour de l'écriture même du sonnet, sur ce que cette forme de poésie permet en tant que moyen d'écriture par rapport à d'autres formes d'écriture et même par rapport, par exemple, aux emails d'une ligne, parce que ce sont ici des sonnets qui sont un peu sous forme de lettres. Il explique comment cet outil littéraire est aussi un moyen de correspondance. Il n'hésite pas d'ailleurs à utiliser les lettres qu'il a reçues lui-même pour les transformer en sonnets et même entretenir avec Laurent Albarracin une dispute en 16 poèmes qu'on retrouve en dernière partie du recueil. Et donc moi je dirais que c'est un livre qui nourrit une belle réflexion autour de la difficulté d'écrire en sonnets. Par exemple, il écrit « Écrire en vers rimés de maîtres réguliers, c'est difficile ». Plus difficile et encore de trouver la musique hors de l'alexandrin. C'est un héritage fort en poésie. Je cherche la musique et lorsqu'elle m'échappe, comme aujourd'hui, j'essaye quand même à emprunter celle de Dubélé ou de Robert Marteau. Et il a aussi une grande exigence à s'imposer en écriture. Il écrit cultive le poème ainsi qu'un arbre étrange, aide-le à pousser sans savoir vers quel fruit portera son branchage, oublie les manifestes. Donc c'est en fait un recueil qui est avant tout une offrande et qui comporte un message d'une grande sincérité. Alors une offrande dans le sens où en citant ces trois vers, à mes enfants, ma femme ou à mon cousin, j'offre un poème, c'est comme un minuscule coffre où l'on m'entend qui rit et qui pleure éternel. Et voilà, et je vais conclure par un sonnet. Du coup, mon choix s'est porté donc vers celui-ci. Je t'écris, Amaël, dans l'avion qui nous mène de Paris à Shanghai, avec ta sœur, ta mère. Tu as 15 mois. Mieux, je grave dans ma tête, avantage des vers réguliers, un sonnet. À défaut de rêver, ça y est, le bassinet est trop petit pour toi. Tu dors sur moi la nuit. Je te déploie, je te retiens, je t'accompagne. Mais pas dans le sommeil, je t'assure, je ne dors pas. Dans le taxi entre Pudong et la maison, je copie mes quatrains. Vous vous abandonnez de nouveau au sommeil, tous les trois, je veille. Tu ne te souviendras ni du vol, ni des jours que nous avons passés à Paris. Je compose une mince assurance avant les souvenirs. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un autre coup de cœur. Au revoir.
Un grand merci à Cécile Guivarche, poète et animatrice du site Terraciel, qui est un miroir vraiment fidèle du paysage francophone de la poésie contemporaine. Allez vraiment y jeter un œil. Et plus qu'un œil d'ailleurs. Voilà, je vais céder la parole à Patrick Jockel pour terminer. Patrick Jockel, qui est poète romancier, qui anime aussi une petite maison d'édition, les éditions de la Pointe Sarène et la revue Cairn. Je vous retrouve dans 15 jours sur la route inconnue. D'ici là, passez une excellente fin de journée à l'écoute des programmes de Radio Rancière, la radio qui rapproche les hommes.
Eh bien, bonjour. Je vais vous parler d'un livre de Patrick Quillier, un auteur qui est dans les Alpes-Maritimes et qui vient de publier aux éditions Fédérope un énorme pavé poétique qui s'intitule « Voix éclatée » de 14 à 18. Tout le monde sait que cette année on fêtait donc le centenaire de la guerre de 1914-1918. Et donc c'est tout un livre qu'il a travaillé pendant plusieurs années pour donner de la voix, donner des voix à tous ces noms que l'on rencontre sur les monuments aux morts. Donc un énorme travail de recherche qu'il a traduit donc dans de longs poèmes des décasyllabes. Ce livre-là vient de recevoir un prix également. Et qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? Je crois que le plus simple, c'est de l'écouter. C'est un énorme pavé, donc... pour donner de la chair et de l'humanité à tous ces noms que l'on croise comme ça sans les lire sur nos monuments aux morts. Alors un premier poème, quelques monuments aux morts pacifistes. Aux enfants d'Écœurdreville, morts pour la guerre, que maudite soit la guerre. Commune de Gensioux, maudite soit la guerre. À Clans, on peut lire, maudits soient tous les responsables de la guerre et honneur à ceux qui ont travaillé pour la paix. À Château-Arnoux, le maire, Victorin Morel, grave dans la pierre son poème d'instituteur profond, Pax Vox Populi, où il fait parler la mère éternelle, éternellement en deuil. La gloire est là chez nos grands morts, à mon enfant, mais sache que la guerre est un crime que doivent expier ceux qui firent sombrer les peuples dans l'abîme derrière les obus, les bombes. Sois bénie, tes sœurs du désarmement. L'union des travailleurs fera la paix dans le monde, c'est à Mozag, Var, qu'on lit ce cri de Marx et cette phrase de Jaurès, l'humanité est maudite, si pour faire preuve de courage, elle est condamnée à tuer éternellement. Et le deuxième commandement est inscrit à Paye, tu ne tueras point. À Avion aussi, tu ne tueras point. On inscrit, maudite soit la guerre, à Gensioux, Royère de Vassivière, Balnor-sur-Laigne, Casaril-Laspen, Saint-Martin d'Estrault et même à Péronne, une femme de pierre tend son poing pour maudire sans fin les battants en guerre. À Saint-Apollinaire, on a inscrit ces mots attribués à Valérie, la guerre et le massacre de gens qui ne se connaissent pas pour le profit, de gens qui, eux, se connaissent bien mais ne se massacrent pas. 12 millions de morts, c'est la déploration qui sourd d'un grand triptyque à Saint-Martin d'Estrault où l'on a voulu dire les souffrances de tous les peuples séchés à canon. Ce triptyque conjure aussi Sivis Pacem, Para Pacem. Et ce triptyque ose rappeler les innocents du poteau d'exécution, tous ces soldats fusillés pour l'exemple. Et qui plus est, quelques infâmes sont venus souiller et dégrader cette inscription poignante au cours tumultueux des années 30. J'ai eu la chance à Montsartou de rencontrer Patrick Tillier et de l'écouter lire de larges extraits de ce livre. C'est terriblement poignant de l'entendre dire, de l'entendre donner comme ça sa voix. Et je voulais vous lire un autre poème. Autre jour, 188 blessés. Les diables bleus des bataillons alpins de chasseurs sont dotés d'une ambulance aux moyens inférieurs au régiment de plaine. 3 médecins seulement, 42 infirmiers brancardiers, une soixantaine de conducteurs et une quarantaine de mulets munis de caloquets et de litières brancards. C'est ainsi. L'ambulance alpine est une unité d'évacuation bien plus qu'une unité de traitement. Elle dispose de schlitts vosgiennes que 3 hommes au moins peuvent pousser ou tirer à bras ou avec des cordes. La schlitt ne peut transporter que 3 blessés assis ou un blessé couché. Recueillis dans un abri sanitaire, avant évacuation vers le poste de secours, les blessés passent alors par des stations ou points de réconfort, où leur sont distribuées des boissons chaudes, lait, thé, café ou chocolat. Bien qu'une faible distance sépare en général les ambulances des hôpitaux, le terrain montagneux rend difficile le transport, notamment l'hiver. Il faut 2 jours ou presque pour évacuer un blessé du Lynch ou de l'Armand Villerkoff de ses sinistres mémoires jusqu'à Gérardmer. Mémoire de mauvaise moire, Mégard, Moiré, Virgil Krutsch, Spenshofen, Johann Albrecht, Graben, Bischofusch, Baragraben. Durant les combats de la Chapelotte, le 26 avril 1916, le commandement de la direction du service de santé des armées s'inquiète de l'arrivée des blessés à Rang, l'étape, 12 heures après leur blessure. L'enquête minutieuse que mène le médecin principal Capus, refaisant en personne le parcours d'évaluation, établit que les blessés, pour gagner un premier point de rassemblement, doivent passer par des boyaux de la première ligne en dénivelé de 80 mètres, puis cheminer péniblement le long d'un boyau de pénétration jusqu'à la croix charpentier sous le feu direct de l'ennemi. De là, il faut gagner, nouveau dénivelé, de l'autre côté des crêtes, zone de sécurité toute relative où se trouvent quelques postes de secours un peu abrités. Encore 900 mètres pour atteindre le secteur accessible aux véhicules sanitaires qui vous prennent en charge pour vous conduire à l'ambulance de triage 208, celle de Rang l'étape. Ce jour-là, les chirurgiens doivent vous opérer 32 heures d'affilée, car en ce seul jour, vous êtes recensé 188 blessés. Certains d'entre vous ont bien mis 12 heures pour faire ce parcours du combattant blessé. Blessé, vous l'êtes gravement et dans les lambeaux du fort intérieur, au long des chaos du cheminement interminable et périlleux, vous dites merci. Un merci intense, infini, aux brancardiers, infirmiers, conducteurs, à tous les êtres et bêtes de somme qui se démènent tant pour vous sauver. Grâce à ces bêtes et êtres de somme, la plupart d'entre vous sont arrivés 6 ou 7 heures seulement après leur blessure, ce que le médecin principal Capu a bien confirmé. Et vous êtes 188 hommes qui entonnent l'hymne grave et muet de la gratitude aux héros discrets. Voilà donc un énorme livre, on a près de 400 pages comme ça de poèmes qui retracent cette terrible histoire au niveau des hommes qui l'ont vécu. Et encore une fois, à la mémoire de tous ceux qui ont traversé ces périodes-là et qui l'ont laissé là. Donc un livre grave, mais un livre qui fait mémoire. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine fois.
Rendez-vous avec le destin. Et tant qu'il te tient, il n'a pas dit son dernier mot. Il vole vite dans ton dos, dans ton dos, ton dos. Et je me souviens quand on s'est connu, j'avais le cœur vide, je l'ai plus. et quand je passe le pont, je me dis, tiens bon, et je parle peu, personne ne sait où je vis. Y'a que mon ombre qui me suit. Et quand il faut descendre au fond du tunnel, quelqu'un tient la lampe droit devant elle. Et quand je passe le pont, elle me dit, tiens bon, au-dessous c'est le vide, au-dessous c'est le vide, et t'as besoin de vivre encore, et t'as besoin de vivre sans être encore à sa merci. Et tout est ainsi, pas moyen de se défendre. Sans voir le pont se fendre, le pont se fendre. Et moi je sais bien qu'hier, aujourd'hui, demain. Et sur la tête, sur les mains, si je passe le pont, elle me dira, tiens bon. Mais je tiens bon, ah oui je tiens bon, et je tiens bon, alors je tiens, oui je tiens bon.